Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Le 9 décembre prochain, une cérémonie aura lieu au Mémorial de la Shoah pour commémorer la rafle du 9 décembre 42 à Tunis, il y a précisément 70 ans. À cette occasion, Claude Nataf, historien, président de la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Claude Nataf. À cette occasion, dans l'après-midi, Claude Nataf présentera « Les Juifs de Tunisie sous le joug nazi, 9 novembre 42, 8 mai 43 ». C'est le troisième ouvrage sur la situation des Juifs de Tunisie durant les 6 mois d'occupation allemande, publié dans la collection « Témoignages de la Shoah » de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, collection lancée en 2005, je vous le rappelle, avec les éditions Le Manuscrit. Il s'agit d'un recueil de témoignages que vous éclairez, Claude Nataf, au moyen d'un appareil critique remarquable et qui permet de se faire une idée très précise de ce que les Juifs de Tunisie ont vécu durant ces 6 mois sous la botte nazie, aussi bien à Tunis que dans les camps de travail forcé, comme celui de Bizerte, qui était directement géré par les SS, mais aussi les camps dépendant de l'armée italienne, sans oublier aussi la situation, le sort des Juifs de Sousse et de Sfax, qui sont donc les deux communautés les plus importantes.
Après celle de Tunis.
Après celle de Tunis, exactement. Claude Nataf, commençons donc par le début. Que s'est-il passé le 9 décembre 1942 à Tunis ?
Le 9 décembre est une triste journée pour la communauté juive de Tunis. Comme Kippour, elle a commencé la veille. C'est-à-dire que le 8 décembre, le colonel Rauf, chef des SS, qui était l'inventeur des chambres à gaz mobiles, ces camions à gaz qui avaient précédé Auschwitz dans les pays de l'Est, a intimé au grand rabbin de Tunisie et au président de la communauté l'ordre de lui présenter le lendemain matin 3000 jeunes juifs de 17 à 25 ans, munis de pelles et de pioches et destinés à être enfermés dans des camps devant travailler sur le front pour l'armée allemande. Bien entendu, c'était une exigence impossible à satisfaire pour un organisme de culte et de bienfaisance comme l'était la communauté de Tunis. Et le lendemain, malgré les appels lancés par le grand rabbin de Tunisie, une centaine de volontaires seulement se sont présentés. Furieux, le colonel Rauf a pénétré dans la grande synagogue Orgueil de la communauté juive de Tunis, dans le quartier du Belvédère, un quartier le plus élégant de Tunis. Il a profané le saint lieu, fait tirer vers la mitraillette par ses SS, et dans la rue de la grande synagogue et dans les rues avoisinantes, les SS ont raflé tous les juifs qui passaient. Et une rafle identique s'est produite aux alentours de l'Alliance israélite rue Maltasrira.
Juste pour qu'on plante le décor en quelque sorte, les Allemands sont là depuis le 9 novembre, c'est ça ?
Les Allemands ont commencé à pénétrer en Tunisie le 9 novembre 1942, en réplique au débarquement anglo-américain qui avait eu lieu en Algérie et au Maroc.
D'accord, et ils viennent de Tripolitaine.
Alors, le premier échelon arrive de Tripolitaine et d'autres échelons arrivent par avion. Plus exactement, le premier échelon arrive par avion de Sicile et le gros des forces arrive de Tripolitaine.
Donc la rafle du 9 décembre se poursuit.
La rafle du 9 décembre se poursuit. Une centaine de personnalités juives, bourgeois appartenant aux dirigeants de la communauté, aux familles bourgeoises, sont incarcérées à la prison militaire, destinées à être fusillées si la communauté juive se montrait récalcitrante aux ordres allemands. Et 3000 jeunes gens sont enfermés dans des camps de travail, une partie autour de Tunis et la plus grande partie souvent à des distances éloignées de Tunis, comme Bizerte que vous avez cité, Mater, Chélus, etc. Et entre le 9 décembre 1942 et le mai 43, la libération, 5500 jeunes gens à Tunis passeront dans les camps de travail dans lesquels ils étaient enfermés sous la garde des forces de l'Axe.
Serge Klarsfeld rappelle dans la préface, donc à votre livre, que Rauf en Tunisie. Cela signifiait la volonté de déporter les Juifs de Tunisie comme le furent à peu près dans la même période les Juifs de Grèce. Est-ce que vous souscrivez à ce propos ?
Bien entendu.
Est-ce que ça veut dire qu'ils ont frôlé de peu, finalement,
oui,
la Shoah ?
Oui, c'est quelque chose dont on ne se rendait pas compte au début. Et les travaux des historiens ont avancé. D'une part, lors de la conférence de Wannsee, vous savez, c'est la conférence qui a eu lieu au début de l'année 42, où le programme d'extermination des Juifs a été décidé. Les Allemands avaient indiqué qu'ils déporteraient de France 1 million de Juifs. Or, en France métropolitaine, il y avait 300 000 Juifs. Et pendant très longtemps, les historiens se sont gaussés en disant ces Allemands si méticuleux, si organisés, ils ignoraient le nombre de Juifs qu'il y avait en France. Ils l'avaient majoré à 1 million alors qu'il y en avait 300 000. Oui, mais si l'on ajoute à ces 300 000 Juifs qui vivaient sur le territoire métropolitain, les 300 000 Juifs qui vivaient au Maroc, les 200 000 Juifs, je donne des chiffres ronds, qui vivaient en Algérie, les 100 000 Juifs qui vivaient en Tunisie, eh ben on arrive à 900 000. Ajoutez à cela les Juifs qui avaient quitté la France, les Juifs qui étaient prisonniers de guerre, on arrive à 950 000, c'est-à-dire pas très loin du chiffre donné à Wannsee. Donc les Juifs d'Afrique du Nord étaient prévus dans le programme d'extermination qui consistait à éradiquer la présence juive de toute la surface de la Terre, pas de l'Europe, de la Terre. En second lieu, Serge Klarsfeld l'a découvert récemment, l'ordre de mission, récemment, il y a 2 ans, l'ordre de mission qui avait été donné à Rauf. Rauf, après avoir sévi en Pologne, a été envoyé en Grèce pour suivre les armées allemandes avec mission d'exterminer les Juifs d'Égypte et les Juifs de ce qu'on appelait alors la Palestine, si, pour le cas, comme le prévoyaient les Allemands, où ils perceraient le front anglais et ils pénétreraient en Égypte et en Palestine. C'est le contraire qui s'est passé. Ce sont les Allemands qui se sont repliés. Donc Rauf a suivi le sort des armées allemandes. Il a d'abord été en Tripolitaine et de Tripolitaine en Tunisie. Il est bien évident que sa mission n'avait pas changé. Sa mission, c'était l'extermination des Juifs. Bon. On a pensé que les Juifs de Tunisie étaient passés à côté de l'extermination parce qu'il y a eu finalement peu de morts. Il y a eu des morts dans les camps de travail.
Quel est le bilan exact ?
Le bilan, il y a eu une 60aine de morts dans les camps de travail et une 40aine de déportés, puisque les déportations ont commencé en avril 1943, un mois avant la libération du territoire tunisien. Et par avion, ce sont les seuls déportés au monde, ce sont les seuls Juifs au monde qui ont été déportés par avion. Et puis rapidement, les Allemands ont perdu la maîtrise du ciel et de la mer au profit des Alliés, donc le programme des déportations a été arrêté. Mais nous avons découvert autre chose. Nous avons découvert le journal du général Lorenzelli, qui était un général italien, qui commandait la division d'assaut italienne. Et dans son journal, qui est déposé aux archives de Rome, aux archives du ministère de la Guerre, il écrit qu'au départ, il n'avait pas compris pourquoi on lui demandait de garder ces jeunes Juifs, qui lui paraissaient inoffensifs. Et qu'il a fini par comprendre que la volonté des Allemands était de les fusiller, comme on ne pouvait pas les déporter, de les fusiller si le front était percé, si le front allié était percé, et si les lacs pouvaient pénétrer sur l'Algérie. Donc à ce moment-là, ils auraient fusillé tous les Juifs
sur
qui
place,
étaient dans les camps
fait,
de travail, sur place, comme cela avait été fait dans les pays de l'Est. Et là, nous avons la preuve, c'est la déclaration, le journal de guerre d'un général italien que nous avons ressorti il y a quelques années.
Au-delà, pourquoi Rauf n'a pas pu aller au bout de sa logique exterminatrice, en fait ? Donc vous dites la victoire britannique, d'une part, elle a la main, c'est ça ? Et d'autre part, le manque de moyens techniques à sa disposition
Oui, je pense qu'il y a trois raisons. D'abord, les forces allemandes n'étaient pas nombreuses. Il y avait beaucoup plus d'Italiens, de soldats italiens que de soldats allemands, même si le commandement était exercé par un officier général allemand. Rauf avait pensé au début susciter des pogroms, pousser la population musulmane au pogrom et faire une partie du travail d'extermination par les musulmans. La sagesse des chefs de la communauté musulmane la solidarité ouverte manifestée par le Bey de Tunis avec la communauté juive a empêché ce funeste dessin. Dans un second temps, il y a eu l'importance du rôle des Italiens dans l'Alliance. Et les Italiens ne tenaient pas à salir leur image par une extermination des Juifs. Au contraire, ils ont essayé par tous les moyens de vider les camps dont leurs alliés allemands leur avaient confié la garde.
On voit d'ailleurs dans votre livre qu'il y a une différence de traitement très nette entre les camps gérés par les SS et ceux
gérés par les Italiens. Il n'y a pas de sévices dans les camps italiens. Bon, il y a des conditions d'hygiène qui sont mauvaises, il y a quelquefois des conditions de travail qui sont dures, mais il n'y a pas de sévices physiques comme dans les camps allemands. Et puis, la troisième raison, c'est que Rauf, heureusement, a été chargé d'autres tâches. Il a été chargé de recruter des volontaires musulmans pour attaquer les alliés sous forme de des petites actions de commando. Donc il s'est un peu désintéressé du problème juif. Il avait prévu d'y revenir parce que ça faisait toujours partie de ses responsabilités. Mais il s'est désintéressé pendant un petit moment. Et il y a eu de la rapidité de l'avance alliée. Le front a d'abord stagné, c'est la dernière guerre de position de la Seconde Guerre mondiale, la dernière bataille de position. Et puis à un moment donné, les Alliés ont pris l'offensive au début avril 1943, et ça a été une offensive fulgurante.
Ils ont été pris de court en quelque sorte.
Ils ont été pris de court.
D'accord. Vous avez parlé de la solidarité du Bey de Tunis. En même temps, plusieurs témoignages font état de moqueries, même d'insultes, alors de la part des autochtones, on va dire, mais aussi des Européens,
oui.
À l'égard des Juifs maltraités, certains conduits en carriole comme ça, qui sont hués par les enfants, et même de dénonciations. Quelle a été l'attitude, en fait, des autres communautés en Tunisie?
Bon, les dénonciations, d'abord, il y a un dossier entier qui se trouve aux archives tunisiennes de l'aide de dénonciation. Et comme toujours dans ces périodes, il y a des gens qui éprouvent le besoin d'écrire et de faire du mal. Et hélas, il y a même des Juifs qui ont dénoncé des coreligionnaires. Peu, mais il y en a eu. En ce qui concerne l'attitude des autres éléments de la population, je crois qu'il faut distinguer. Il y a eu des beaux gestes de solidarité. Il y a, par exemple, le docteur Dubosc, lorsque les Allemands sont arrivés à Djerba, ont imposé une amende à la communauté juive de Djerba. Le contrôleur civil, c'est le français, s'est défilé. Il a laissé la communauté se débrouiller avec les Allemands. Il y a un médecin français qui a estimé que son devoir de français était d'être aux côtés de la communauté. Et il a même donné un bijou de sa femme pour contribuer au paiement de l'amende. Donc il y a eu des gestes, de beaux gestes de solidarité, quelques individualités. Il y a eu des gestes de salauds. Je ne parle pas seulement des dénonciations, il y a eu des exactions, il y a eu des moqueries qui sont signalées, il y avait certains Européens ou certains musulmans qui étaient très contents de voir que les Allemands mataient les Juifs ou que les Juifs partaient dans des camps. Mais l'attitude de la majorité de la population a été l'indifférence. Dans ces circonstances, chacun était pour soi. Alors bien sûr, les Juifs souffraient, il pouvait de temps en temps y avoir une plainte, mais il y avait la majorité, c'était l'indifférence, avec des beaux gestes de solidarité.
Le livre s'ouvre sur le rapport remis par les dirigeants de la communauté juive de Tunis, celui de Moïse Borgel, quelques jours donc après la libération de Tunis aux nouvelles autorités françaises. À lire ce rapport, mais aussi à lire le témoignage de Georges Krief.
Georges Krief.
Krief, oui. Un jeune avocat donc, qui a été appelé à seconder Paul Guéze, dont on reparlera, j'espère. On a l'impression que les responsables de la communauté se sont sentis en quelque sorte injustement, enfin ont été accusés d'avoir collaboré avec l'occupant. Cela rappelle un peu le procès fait par Hannah Arendt aux responsables de la communauté hongroise. Est-ce que dans le cas tunisien, ce reproche de collaboration dont ils font état et dont ils se défendent, je crois que Moïse Borgel parle des imbéciles dans son témoignage, qui l'ont traité ainsi de collaborateur, ce reproche est-il justifié dans leur cas ?
Rien de comparable avec la situation des Judenrat, parce que les Judenrat sont des organismes qui ont été nommés par l'occupant. En Tunisie, c'est la communauté élue avant la guerre qui a justement pris en main les choses pour éviter le Judenrat que les Allemands voulaient nommer. Donc il s'agit de dirigeants élus par la population avant la guerre, et je dois dire que ces mêmes dirigeants ont été triomphalement réélus en 1947 aux élections, aux premières élections qui ont suivi la guerre. Le docteur Moiti, qui a été par exemple le responsable médical de la communauté pendant la guerre, aux élections de 1947, a été élu en tête, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En second lieu, qu'a fait la communauté ? À partir du moment où il y a eu la rafle dans la rue, où les Allemands ont arrêté indistinctement des hommes jeunes et des vieillards, des enfants même, à partir du moment où il y avait 100 personnes qui étaient en prison et dont la vie était suspendue à l'exécution par la communauté des ordres allemands, la communauté a pris des choses en main pour essayer de le faire avec que les choses se passent avec le maximum d'équité, le maximum de justice et le moins de danger possible. Mmh. Tous les jours, les dirigeants de la communauté, il y a une photo d'ailleurs que j'ai publiée dans le livre, qu'on a retrouvée dans les archives militaires allemandes, où les dirigeants de la communauté sont obligés d'être debout. Ils reçoivent deux fois par jour la visite des SS, et les SS les menacent avec leurs revolvers, et ils sont debout. Ce sont quand même des hommes d'un certain âge, des hommes qui ont passé social, académique, universitaire. Ce sont des dirigeants qui ont été reconnus par les autorités françaises et les autorités tunisiennes, et ils sont tous les jours sous la menace des Allemands. Alors, quelquefois, effectivement, des gens n'ont pas compris qu'on puisse envoyer des jeunes gens dans des camps de travail, mais c'était les ordres allemands. Et si les dirigeants de la communauté ne l'avaient pas fait de cette façon, eh ben, les Allemands l'auraient fait eux-mêmes par des rafles, comme ils l'ont fait le 9 décembre.
Ils auraient fusillé les otages,
sans doute. Ils auraient fusillé les otages. Or, pas un seul otage n'a été fusillé. Alors, effectivement, certains ont estimé que la communauté avait favorisé les fils de bourgeois. Je crois que tous les témoignages que j'ai publiés démontrent le contraire, puisque beaucoup de ces gens qui ont été dans des camps de travail et qui s'expriment sont des fils de bourgeois, justement, sont des intellectuels.
C'est le cas de Jacques Krief.
C'est le cas de Jacques Krief, qui est avocat, dont le père est un des plus importants commerçants de la ville de Tunis et un propriétaire foncier.
Il dit qu'au départ, il fait partie du comité qui s'occupe donc de répondre aux demandes des Allemands, et puis écœuré des reproches de favoritisme, je décide de partager le sort commun, refusant de me retrancher derrière un poste administratif quelconque. Il va lui-même...
A constitué un groupe de 50 jeunes volontaires qui étaient tous des fils de bourgeois, qui appartenaient à la bourgeoisie. Alors, effectivement, il était plus facile à un fils de bourgeois d'échapper au camp de travail. Il y avait deux façons d'échapper. La première, c'était en se cachant. Alors, où pouvait-on se cacher ? On pouvait se cacher chez des amis chrétiens ou musulmans qui acceptaient de prendre ce risque. C'était plus facile à un fils de bourgeois qui avait davantage de relations qu'à un ouvrier qui habitait le vieux quartier juif et qui vivait tant bien que mal en milieu fermé. Et puis, la seconde raison, c'était la dispense médicale. Mais là, tous les témoignages le montrent, les médecins juifs qui sélectionnaient les recrues et confirmaient ou infirmaient leur aptitude au camp de travail, travaillaient sous le contrôle de médecins allemands et étaient eux-mêmes terrorisés par les ordres des médecins allemands. Donc ils pouvaient difficilement favoriser quelqu'un, bourgeois ou non bourgeois.
Et ce qu'on remarque aussi en lisant ces témoignages, c'est... d'une certaine façon, aussi bien les responsables communautaires que les juifs eux-mêmes, au contraire, ont fait preuve de beaucoup d'imagination de Russes pour échapper ou adoucir du moins le sort des Juifs.
Oui.
Alors en particulier, là je pense qu'il faut parler de Guèze, de Paul Guèze. Peut-être nous dire un peu qui il était.
Alors Paul Guèze est né à Sousse. Et il a 17 ans, pendant la guerre de 14. Il passe son bac et il est tunisien, puisqu'il n'y a pas eu de décret Crémieux en Tunisie. Les Juifs étaient de nationalité tunisienne. La naturalisation individuelle n'a été ouverte qu'à partir de 1923. Paul Guèze décide de s'engager dans l'armée française, alors que rien ne l'y oblige, parce qu'il considère la France comme sa patrie. Et surtout, il ne veut pas encourir le reproche. Ben, les Juifs profitent de tous les avantages du protectorat français, mais ne payent pas l'impôt du sang. Paul Guèze s'engage, il fait une guerre brillante en 1914, il part deuxième classe, il revient officier, décoré de la médaille militaire, plusieurs citations à sa croix de guerre, et il termine ses études, il devient avocat, c'est un brillant avocat au barreau de Tunis, il participe à l'action social de la communauté juive, il crée même une œuvre de patronage en faveur des jeunes écoliers, il fait partie du conseil de la communauté, c'est un élu au grand conseil qui est l'assemblée financière de la Tunisie, il est élu par la population française au grand conseil de la Tunisie, donc c'est un homme qui a une grande autorité, et qui participe à la vie sociale tant juive que non juive en Tunisie. Et en 1939, lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, il décide également d'être volontaire pour le front. Il participe à la campagne de France. Il est décoré, cité, et il est dispensé même, compte tenu de ses titres militaires, de toute obligation, de toutes les dispositions du statut des Juifs. Il est membre du Conseil de la communauté, et lorsque le président de la communauté doit se rendre auprès du colonel Rauf le 9 décembre, tout le monde est terrorisé, personne ne veut y aller, et Paul Guèze décide d'accompagner le président de la communauté. Et il se met en uniforme d'officier français, et le chef Rauf hurle qu'il va faire fusiller les dirigeants de la communauté, et Paul Guèze lui répond « Sachez que je serai le premier ». Et Rauf lui met son revolver sur la tempe. Paul Guèze ne bouge pas, il est impassible. Et un autre Allemand lui dit « C'est un officier ». Et Paul Guèze va pendant 6 mois tenir à bout de bras toute la jeunesse juive qui est dans les camps.
Pour protéger la communauté et vider petit à petit les camps de travail.
Parce qu'il y a un groupe aussi que Paul Guèze appelle dans ses mémoires les termites, qui est chargé par lui de vider les camps. Alors, vider les camps comment ? D'abord en achetant les consciences de certains gardes allemands, d'autre part en jouant de prétextes médicaux, puis surtout en faisant croire à des risques d'épidémie, parce que les Allemands ont une peur bleue du typhus, il lui fait croire qu'il y a des typhus, etc., qui entravent les opérations militaires.
Très bien. On n'a pas eu le temps d'évoquer, malheureusement, le témoignage inédit qui a été déposé, d'ailleurs, au mémorial de la Shoah de Maximilien Trainer.
Ah oui, très important.
Très important.
Maximilien Trainer était un juif autrichien que les Allemands avaient imposé à la communauté comme interprète, qui se révélera un très bon juif, d'ailleurs, et qui se croit un peu supérieur à tous ces juifs séfarades, mais qui jouera un rôle très important dans les relations avec les Allemands.
Merci Claude Nataf. Je rappelle que dimanche prochain aura lieu une cérémonie au mémorial.
Oui, ça je l'insiste beaucoup.
À 10h45.
À 10h45, il y aura, comme chaque année, une cérémonie à la mémoire des déportés de Tunisie et des Juifs qui ont été fusillés dans les camps de travail ou qui sont morts dans les camps de travail par suite de mauvais traitements. À 10h45, il est important que nous soyons très nombreux pour pouvoir dire une prière à leur mémoire parce que d'abord, ce serait ne plus penser à eux serait donner une victoire posthume à Hitler. Et puis, il est bon que ceux qui sont morts sans sépulture, sur lesquels personne ne peut aller se recueillir sur une tombe, soient au moins une fois par an honorés par la communauté.
Et elle sera suivie d'une rencontre, cette cérémonie, à 14h autour de votre livre, dont je rappelle le titre « Les Juifs de Tunisie sous le joug nazi ». et à 17h30 de la projection du film Village Asmin de Ferdi Bouguedir, produit par Serge Moati et soutenu par la Fondation.
D'après le roman de Serge Moati, le film est de Ferdi Bouguedir, cinéaste tunisien.
D'après un roman de Serge Moati et soutenu par la FMS. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver: www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net.